Bonsoir. Le centre financier de Kinshasa, en construction depuis novembre 2022, sera livré par la société Milvest à l'État congolais le 2 décembre 2023. Cette affirmation est du président du conseil d'administration de cette entreprise lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa le jeudi 14 septembre dernier. Ce complexe architectural moderne est un ensemble de 6 immeubles destinés à accueillir notamment les ministères de finances et de budget, des banques et des maisons commerciales, des bureaux, des salles de conférence et 2 parkings avec une capacité totale de 1100 véhicules. Selon le PCA de Milvest, il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant Turquie-République démocratique du Congo, coopération qui consiste en un préfinancement que cette succursale du groupe Miller Holding va récupérer par sa gestion durant tout au plus 49 ans. Dans la même foulée, depuis quelques temps, dans la capitale congolaise Kinshasa, l'immobilier connaît un boom sans précédent, gratte-ciel d'habitation ou de bureaux, guest house ou encore des hôtels de luxe, notamment Novotel et Hilton Hotel récemment inaugurés sortent de terre. La construction de ce boom immobilier haut de gamme est l'œuvre pour la plupart du temps des sociétés étrangères mais aussi de quelques Congolais. Avec donc ce boom mentionné ici, la RDC a-t-elle selon vous lancé l'image de son développement ou s'agit-il tout simplement d'une coïncidence d'un instant? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons Lems Kamonya, analyste économique. Lems Kamonya, bonsoir.
Bonsoir.
Mais également Israël Moutala, bonsoir. Israël Moutala, est-ce que vous êtes là? Israël Moutala va donc nous rejoindre dans ce débat. Il est aussi analyste économique. Et enfin, Guy Roger Tchassouma, avocat au barreau du Lualaba, master 2 en criminalité économique et environnementale, mais également licencié en sciences économiques et financières. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Un boom immobilier de grosses bâtisses et immeubles de luxe s'observe de plus en plus ces jours-ci dans la capitale de la République démocratique du Congo. À part une dizaine d'infrastructures sportives récemment utilisées par la République démocratique du Congo pour les Jeux de la Francophonie organisés il y a quelques semaines à Kinshasa, il y a depuis quelques années mais aussi ces jours-ci encore la construction de nombreux gratte-ciels et bâtiments de luxe dans la capitale de la République démocratique du Congo, dont un sera livré au pays à la fin de cette année. Il s'agit du centre financier de Kinshasa, un complexe d'affaires de 6 immeubles, premier du genre en République démocratique du Congo. Les détails avec Jacques-Yves Molima.
Le bâtiment ici, c'est le bâtiment A.
Et aussi un bâtiment B. Ce sont donc 2 tours jumelles de plus de 15 niveaux situées en face du palais de justice. Ils abriteront les ministères des finances et du budget et autres bureaux d'utilité publique, suivis des 4 autres immeubles.
Ça, c'est l'hôtel.
Hôtel 5 étoiles de 19 niveaux comprenant 240 chambres. Et puis vient la grande salle des congrès. Ensuite, il y a 2 immeubles avec des appartements.
Juste en bas, il y aura du chaussée. Ici, il y aura un restaurant. Tout sera donné à la location.
Devant les bâtiments, une grande fontaine de près de 3000 m² est aménagée et puis...
Il y a aussi une place pour le paysage. On va planter des arbres, on va planter des fleurs.
On y trouvera également plusieurs parkings dans certains souterrains pour une capacité de près de 1200 véhicules. Selon le président du conseil d'administration de Milvest, Tyron Mildon, le coût global des travaux s'élève à 290 millions de dollars américains exclusivement déboursés par l'entreprise turque. Cependant, les clauses de contrat conclues entre la RDC et la Turquie stipulent que toutes ces infrastructures de haute facture seront la propriété de la RDC après 49 ans de gestion par l'entreprise turque Milvest. Toutefois, des ressources générées par ce complexe, la partie congolaise bénéficiera de certains pourcentages.
Lems Kamonya, analyste économique, depuis quelques années, la République démocratique du Congo est un peu comme un grand chantier, des routes par-ci par-là qui sont en train soit d'être construites, soit d'être réhabilitées, mais à côté de cela, un certain nombre de gros ouvrages, des immeubles de luxe, des gratte-ciels, comme celui qui vient de nous être présenté. Il y a des endroits déjà de luxe connus dans la capitale Kinshasa. Il y a quelques années, Pullman, Congo Fleuve Hotel, et très récemment, d'autres hôtels du même genre, un nouveau hôtel, et notamment Hilton Hotel, hein, qui venait d'être ouvert en République démocratique du Congo, et il y en a beaucoup de cette nature-là depuis un certain moment. Lems Kamoanya, analyste économique, est-ce que pour vous, ça signifie quelque chose?
Oui, donc disons pour moi ça signifie quelque chose et je peux expliquer de façon différente. Donc la première des choses c'est que nous sommes finalement en train d'aller vers ce qui se réalise dans d'autres pays où les grands investissements ne sont pas seulement l'apanage de l'État mais c'est le secteur privé qui investit. Le secteur privé investit et il y a ce qu'on appelle en finance ou en économie les financements innovants. Donc les privés viennent investir. Ils peuvent exploiter et ensuite transférer la propriété des différents investissements réalisés qui jadis étaient considérés comme étant du domaine exclusif de l'État, mais aujourd'hui qui sont réalisés par les privés, et à un moment donné, ils les transfèrent aux autres. Si vous allez dans les pays comme l'Afrique du Sud, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de routes à péage qui sont construites par des privés et qui les exploitent après, ils vont les tuer à l'État. Dans plusieurs pays africains, vous verrez que les grands développements qui s'y observent ce n'est pas seulement sous financement public, mais c'est sous financement privé. Alors, si nous voyons ces phénomènes se développer en RDC, ce que signifie, parce que ça a commencé depuis un certain moment, ça signifie que toutes les réformes qui ont été engagées pour attirer les investisseurs congolais, pour faciliter la tâche au privé, pour qu'ils viennent investir ici, cela commence à se réaliser. C'est déjà une grande avancée. L'autre avancée qu'il faut aussi réaliser, c'est la conséquence de ce qu'on appelle la globalisation financière. Aujourd'hui, vous allez constater que vous avez beaucoup des étrangers qui sont au pays, qui sont en train de pouvoir acheter des terrains, de construire, et d'exploiter, développer du business. Pour eux, l'argent ne doit pas seulement être investi dans leur pays. Ils trouvent des places où la rentabilité est garantie, où elle est prometteuse. Si vous allez dans les pays occidentaux, même si vous mettez l'argent dans des banques, parfois les taux d'intérêt annuel c'est 2, 3, 4, 5%. Au contraire, des pays comme la RDC, c'est des pays vierges où les besoins sont exprimés et ressentis, mais il n'y a pas en face des acteurs qui peuvent arriver à les répondre. Alors, les privés déplacent leurs capitaux et ces capitaux, ils viennent investir dans ces pays et ils peuvent obtenir des taux de rentabilité qui dépassent 30 ou 50% de leurs investissements. Alors, au lieu de laisser leurs épargnes moisir dans les banques occidentales ou dans les autres banques à travers le monde, ils préfèrent plutôt les canaliser vers la RDC. Donc ça, c'est aussi un autre élément qui montre que effectivement, ce phénomène de globalisation financière qu'on observe à travers le monde, il est aussi maintenant vivant en RDC à travers ce que nous voyons comme investissement et qui contribue au fait au développement et à la modernisation de la ville.
Alors, Lems Kamoanya, de manière répétitive, hein, la RDC est souvent présentée comme un pays à décourager pour les investissements et le climat des affaires est parfois mal décrit dans le pays. Comment expliquer alors qu'à côté de ça, de tels investissements et de telles infrastructures, est-ce que ceux qui, malgré tout, investissent en ce moment en RDC, c'est tout simplement des cascadeurs?
Je pense qu'il faut relativiser et nuancer ces risques d'un pays où on dit que le climat des affaires n'est pas bon. Bon, ce qu'ils le disent d'abord, c'est quand on regarde par exemple les conditions pour créer une société, les formalités qu'il faut remplir, les tracasseries administratives. Parfois c'est très long par rapport à ce qui s'observe ailleurs, où les investisseurs sont accueillis et on met en place autant de facilités pour les aider peut-être à ouvrir leurs affaires. Mais d'autre part, il peut y avoir un groupe d'investisseurs qui développe ces discours pour décourager ceux-là qui veulent effectivement venir en République démocratique du Congo. Alors, c'est une politique de dire, écoutez, reste là où tu es pour que tu me laisses les marchés assez libres. Donc, c'est pourquoi ces discours-là, il faut les nuancer. Certes, nous avons beaucoup de réformes à engager pour faciliter et attirer davantage des investisseurs, mais d'autre part, c'est une destination sûre pour la plupart des investissements parce que ceux qui viennent en RDC, en peu de temps, ils repayent leurs investissements et ils réalisent des super profits. Et là, il n'y a aucun doute à dire là-dessus.
Alors, Lems Kamoanya, nous avons décrit là un peu en survolant les infrastructures les plus frappantes en ce moment-ci, un peu cette espèce de boom au luxe et au gratte-ciel à Kinshasa. Mais vous qui êtes moniteur un peu de cette problématique. Que voyez-vous dans le reste du pays? Est-ce que il y a quelque chose de similaire ou qui commence dans les autres provinces de la RDC ou rien du tout?
Bien sûr, à Lubumbashi où j'ai séjourné récemment, j'ai vu aussi exactement les mêmes phénomènes qui se développent. Vous parlez de nos hôtels à Lubumbashi, mais il y a un autre hôtel pareil qui se développe juste à côté de Pullman ou l'ancien hôtel Caravia. J'ai vu beaucoup de complexes, beaucoup de supermarchés, j'ai vu vraiment de grands développements. Quand vous allez vers le golfe, vous sentirez que effectivement il y a le même phénomène, il est en train de pouvoir aussi s'observer, mais peut-être à une vitesse qui n'est pas comme celle qu'on observe au niveau de Kinshasa. Kinshasa, comme on l'a dit, c'est souvent un pays dans une ville. Alors, Kinshasa attire les gros, c'est la plus grande place financière du pays, c'est la capitale du pays, et c'est là qu'il y a quand même les volumes les plus élevés des affaires. Mais à Lubumbashi, avec les boues miniers, ça se réalise. Si vous allez à Kolwezi, les mêmes tendances sont en train d'être constatées, notamment avec toute l'activité minière qui est en train de se développer. Donc, quand vous êtes à Lubumbashi, vous sentez qu'on commence à avoir des similitudes avec ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc, les gens ont compris que il y a des besoins, l'économie bouge et il y a nécessité de mettre en place des grands bureaux de représentation, des grandes infrastructures pour accueillir les touristes, pour accueillir ceux qui voyagent et qui se développent. Et je pense que ça commence à se généraliser petit à petit. À Goma, bon, là, c'est un autre phénomène, et là, il faut encourager les natifs, les Congolais, qui eux-mêmes prennent en charge leur développement. Goma, aujourd'hui, c'est la plus belle ville du pays, et il y a des hôtels qui se développent, il y a des grandes bâtisses qui se développent, mais qui sont plus les fêtes, non pas des étrangers comme à Lubumbashi ou à Kinshasa, mais les fêtes des natifs, des Congolais qui sont d'ailleurs natifs de cette province, ce qui est quelque chose à pouvoir encourager. Je dirais que la tendance, là, n'est pas seulement à Kinshasa, mais
Et se généralise de plus en plus.
De manière progressive, oui.
Merci Lems Kamoya. Nous restons avec vous dans ce débat. Israël Moutal, analyste économique, la RDC régulièrement présentée comme un pays dangereux, surtout pour les affaires. Ce que nous venons de décrire ce soir et ce dont vient de parler notamment Lems Kamoya, comment vous analysez ça?
Ben, je partage totalement l'analyse de l'EMS.
Oui, allez-y, vous avez la parole, Israël Moutala.
Merci de la parole. Je disais que je partageais totalement l'analyse de l'EMS Kamoya. Je pense que, pour moi, et comme il a souligné plus haut, c'est le secteur privé qui doit être le moteur de notre croissance. Quand vous observez le budget de l'État, c'est en ressources propres, tourne autour de 10 à 12 milliards de dollars. Avec 10 à 12 milliards de dollars, avec une population de 100 millions d'habitants, avec des besoins colossaux en termes d'investissement, avec un pays aussi grand que 80 fois la Belgique et 4 fois la France, ça veut dire que les ressources propres de l'État sont insuffisantes pour essayer
d'investir et de développer
en termes d'investissement.
Oui, allez-y.
Et donc, par rapport à ça, il n'y a que le moteur privé. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de notre pays, qu'est-ce que le pays soit attractif sur le plan de capitaux, qu'il arrive à attirer des capitaux pour stimuler la croissance économique. Et donc, l'exemple de Milinvest est un exemple du modèle qu'il faut suivre pour essayer de créer de la richesse localement. Moi, je suis d'avis qu'un tel projet est un projet qui structure l'économie. C'est des projets comme ça qu'il faut que de tels projets se multiplient pour réduire la pauvreté. De la réduction de la pauvreté.
Tout à fait. Israël Moutala, on constate qu'au même moment, quand même, hein, les pays riches, les pays modernisés, les pays occidentaux, qui sont généralement présentés dans le monde comme les modèles dans les investissements, dans les infrastructures, dans le développement dans le monde, sont moins nombreux quand même dans les ouvrages dont nous avons donné mention tout à l'heure comme exemple. Est-ce que l'absence de cela ne présente pas la présence de ceux qui sont malgré tout en République démocratique du Congo en train d'investir comme plutôt des cascadeurs qui ne craignent rien, même quand le climat n'est pas favorable?
Ben, je pense que là où, dans une économie classique, le taux de rentabilité interne d'un projet, il est bas. Ça veut dire que c'est le principe de la vie. Tu prends plus de risques, tu as plus de gains. Tu prends moins de risques, tu as moins de gains. Donc, voilà, notre pays, on a fait beaucoup d'efforts en termes... La NAPI a fait beaucoup de réformes pour rendre notre pays attractif, mais on a toujours une situation de guerre. On fait beaucoup d'efforts en termes de lutte contre la corruption, mais on a beaucoup de marge de progression qui reste devant nous encore. C'est vrai, il faut saluer le travail de l'IGF, c'est un travail louable, mais il y a encore une marge de progression. Alors, quand un investisseur décide de venir dans de telles conditions, je pense que il prend un gros risque, et ce risque-là est compensé par des gains. Mais ici, avec cette convention, on se rend compte quand même qu'il y a eu deux États qui ont signé une convention qui encadre cet investissement. Donc, c'est un investissement quand même qui a des solides garanties de l'État. Les deux chefs de l'État se sont engagés au plus haut niveau, ce qui donne aux investisseurs encore plus de latitude. Je dirais aussi sur cette question de l'attractivité de notre économie, et que c'est la clé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires d'abord étrangers, mais il y a aussi des nationaux qui croient en leur pays. Comme l'a dit Lems tout à l'heure, vous allez à Goma, malgré les bruits des bottes, vous avez des hommes d'affaires congolais qui investissent dans l'hôtellerie, dans l'immobilier et tout ça. Et donc, moi, j'étais frappé par le développement économique de Goma. Je suis d'avis aussi avec l'EMS que c'est la plus belle ville de la RDC, c'est la ville la plus dynamique. Et cette dynamique, c'est d'abord un mouvement des investisseurs congolais, pas étrangers. Vous avez les hôtels IUC, Serena, qui sont les fêtes de Congolais et d'autres hôtels. Donc moi, je pense que c'est une dynamique qu'il faut absolument, sur laquelle il faut embrayer, mais ne pas nous relâcher pour rendre notre économie encore plus attractive, pour attirer encore plus d'investissements. Comme je le dis, notre pays a besoin d'avoir une capacité d'absorption de dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il faut que ce mouvement se répercute dans toutes les provinces. Mais un économiste, on ne va pas mettre un hôtel, par exemple Marriott, dans un coin où il n'y a pas une activité économique, où il n'y a pas suffisamment de population. Donc, il faut résoudre des problèmes d'infrastructure en termes de connectivité, en termes d'énergie et en termes de masse critique de la population pour que les investissements viennent. Mais en attendant, l'investissement de Mille Invest est un bel investissement dans ce sens que quand vous voyez le coût d'abord, ça veut dire que, comme l'avait dit le ministre des Finances, qu'au mètre carré, on est à 2 000 $. C'est quand même assez compétitif. Je pense que ça sera la norme pour construire un immeuble ici, 2 000 $, et non seulement les grosses œuvres, mais l'ameublement aussi, 2 000 $ au mètre carré. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que je vois, il y a d'autres immeubles ici où vous atteignez 10 000 ou 20 000 $ le mètre carré. Donc là, on est à 2 000 $ le mètre carré. Comme coût, c'est quand même assez encourageant et exceptionnel comme réduction du coût.
Merci Israël Moutala, vous restez avec nous dans ces débats et on pourra encore peut-être dire un mot à ce protocole d'accord Turco-République démocratique du Congo ou encore Mille Invest, puisque nos auditeurs tout à l'heure prendront la parole et ils ont beaucoup donné leur avis à ce sujet. Guy Roger Chassouma, avocat au barreau du Lualaba, Master 2 en criminologie économique et environnementale, mais également licencié en sciences économiques et financières. Guy Roger, vous avez aussi l'habitude de beaucoup côtoyer les mining dans le Haut-Katanga. Quel est Lems Kamanya a déjà touché quelques mots sur la question, mais quel est le rapport, si on peut dire comme ça, de ce que vous pouvez nous dire au niveau du boom d'investissement dans cette province-là et surtout dans les milieux des mines?
Merci beaucoup, Monsieur Mal. Merci beaucoup. Je salue en passant Monsieur Lems Kamanya et Monsieur Israël Moutala. Et j'approuve vraiment avec l'énergie l'analyse de mes deux prédécesseurs, Monsieur Lems Kamanya et Monsieur Moutala. Les booms immobiliers à Kinshasa selon moi, et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu aussi, pourrait être interprété comme un signe de développement économique et d'investissement dans le secteur de la construction. Mais en dehors de ça, ça pourrait aussi être très important. Et il est très important de noter que cela pourrait aussi être dû à divers facteurs, tels que attrait des investisseurs étrangers, comme vous le savez, avec ces maisons que nous construisons. Ça donne vraiment l'attrait des investisseurs qui doivent comprendre que le climat d'affaires en RDC est bon. Il y a aussi la sécurité. Aussi, les politiques gouvernementales en matière de développement urbain ou d'autres circonstances économiques spécifiques à cette période. Mais aussi, pour évaluer aussi pleinement l'impact sur l'image du développement de notre pays. Ça, vous le savez bien. Mais aussi, je voulais aussi ajouter quelque chose. Il serait nécessaire d'analyser plus en profondeur les tendances à long terme et les politiques économiques du pays. Avec plusieurs constructions ici en RDC, à Kinshasa, comme il y en a beaucoup, et aussi dans notre province comme au Katanga et Lualaba, vous allez voir qu'il y aura la création de l'emploi. Il y aura la création de l'emploi, et plus il y aura la création de l'emploi, l'État gagne sur le plan fiscal, parce que avec tous ces emplois, avec tous ces bâtiments, la sous-traitance va effectivement fonctionner, comme vous le savez, parce que nous, avec les bons miniers, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font la sous-traitance dans ce secteur-là, et le secteur privé. Non seulement il y aura ça, nous allons aussi faire assez que, parce que chaque fois quand on présente la RDC sur le plan international, les gens ont toujours l'image qu'il y a la guerre, il n'y a pas un bon climat d'affaires, vous pouvez investir et vous pouvez risquer demain, mais j'ai toujours dit toujours aux investisseurs, nulle part au Congo, ou bien nulle part au monde, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro, comme M. Zahed a dit. Il y a des gens qui vendent cette image-là pour que les autres ne viennent pas investir en RDC, pour qu'eux puissent faire l'affaire. Mais quand vous remarquez, j'ai toujours appelé la RDC, pour ne pas aller très loin, des fois on l'appelle un paradis fiscal, mais les climats, si vous prenez le budget que Vodacom a fait, par exemple, en Afrique du Sud pendant autant d'années, il a fait en RDC, précisément dans la ville de Kinshasa, dans moins d'une année. Vous voyez? Donc, avec ce boom ici, ça prouve aussi que la RDC actuellement commence à aller vers les développements et nous encourageons. Quand on contraste, vous avez parlé avec l'Invest, donc Turquie avec l'État congolais, et c'est tout que c'est un accord gagnant-gagnant. Ce sont les initiatives que nous devons beaucoup encourager. Et c'est un accord par lequel chaque partenaire se procure aussi de l'intérêt de l'autre, d'une façon également favorable à son propre intérêt. Donc nous devons encourager ce genre de choses et nous devons faire en sorte que l'État puisse encore plus signer ce genre des accords avec d'autres États qui doivent venir investir, parce que nous avons trouvé que quand un individu qui vient investir, c'est différent que quand un État vient investir dans notre pays.
Alors Guy Roger Tshiasouma, ce mouvement positif que vous décrivez et que nous avons mentionné avec un sursaut de construction de bâtiments de luxe dans un certain nombre de provinces, a commencé plus ou moins déjà avec le régime finissant de Joseph Kabila. On voyait déjà un certain nombre, par exemple, de plus en plus de malls, de plus en plus de supermarchés et quelques bâtiments qui aujourd'hui sont déjà opérationnels depuis de nombreuses années à Kinshasa. Mais pensez-vous que dans le régime Tshisekedi, qui est aussi à sa dernière année, quelque chose de particulier a été fait qui semble accélérer cet exercice d'immobilier de luxe?
Oui, j'approuve. Il y a eu la continuité du pouvoir de l'État, il y a eu la continuité. Parce que si le pouvoir du Tshisekedi ne donnait pas, le président Tshisekedi ne donnait pas un bon climat d'affaires, je ne pouvais pas voir les investisseurs continuer à investir. Nous avons connu certains supermarchés, pour ne pas faire la publicité de ces supermarchés ici. Nous avons connu certains hôtels ici. Mais vous allez voir qu'avec, bien sûr, il y a eu les lois qui ont été données et votées avant que le président Tshisekedi entre au pouvoir. Mais vous allez voir l'applicabilité. Prenons le cas de la sous-traitance dans le secteur privé. C'est actuellement que nous tous nous sommes réveillés. Vous voyez, nous sommes réveillés par rapport à ça. Bien sûr, ça a été fait par le prédécesseur, mais l'application de rigueur qu'avec le président actuel. Donc, c'est un élément très positif, très très positif pour nous qui vivons dans des provinces, surtout au Katanga, là-bas, au Katanga, etc., dans les secteurs privés, dans les secteurs miniers. Vous trouvez que la sous-traitance vraiment fait son affaire. Il y a maintenant chaque personne qui a au moins une petite entreprise. Ici, on ne parle plus en termes où est-ce que je vais être engagé, mais chacun veut maintenant créer sa propre société. Chacun veut être un entrepreneur, comme le cas de Goma où tous les jeunes sont entrepreneurs. Donc vous allez voir qu'il y a eu la continuité et il y a eu vraiment la positivité dans ces fonds-là.
Dialogue entre Congolais se poursuit donc, cette émission qui est suivie en FM, mais aussi sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. L'heure justement d'introduire mes complices de ce soir, les auditeurs et les intervenants dans cette émission. Nous allons, pour Lems Kamoyan, analyste économique, écouter le commentaire de Junior Bompongo depuis Kinshasa.
Junior Bompongo depuis la ville-province de Kinshasa. De mon humble avis, il s'agit d'une simple coïncidence d'un seul instant, d'autant plus que parler du développement serait excessif, car on ne peut parler du développement dans un pays où millions d'habitants vivent dans un seuil de pauvreté extrême. Par ricochet, la politique des logements sociaux est quasiment inexistante. Néanmoins, dans une vision prolifique, voir ces immeubles pousser comme des champignons constitue pour moi un symbole de civilisation moderne qui pourrait permettre à la RDC de réadapter sa politique de modernisation des villes et provinces, mais comme un adage nous dit que le degré de civilisation d'une société se mesure à la détresse de ses citoyens les plus pauvres et non au nombre de ses gratuitiers, il y a lieu de trouver l'équilibre entre le financement des pareils projets et la vie de la population, car le Congolais lambda est encore en quête permanente de comment trouver son pain quotidien.
Lems Kamoyan, analyste économique, cet auditeur nous décourage d'utiliser le mot développement avec ces éléments que nous avons déjà à l'œil et que nous avons mentionnés. Êtes-vous quand même d'accord avec lui que peut-être parler de développement avec ces signaux-là, c'est trop se montrer enthousiaste, ou bien vous soutenez que déjà avec ça, on peut évoquer le développement?
Oui, non, je pense qu'en partie, il a raison, parce que quand on dit développement, ça touche à un certain nombre de facteurs, et surtout si on prend le développement dans le sens le plus large. Mais quand on regarde du point de vue économique, je pense que Guy Roger l'a évoqué, et même Israël Moutala, aujourd'hui, ceux qui construisent les hôtels, ceux qui construisent des grands bâtiments, pour les faire opérer, ils vont engager des gens. C'est-à-dire, les pauvres aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi, certains d'entre eux vont trouver de l'emploi. On constate aujourd'hui que beaucoup de jeunes qui ont terminé ou beaucoup de gens qui étaient sans emploi sont en train de trouver des opportunités d'emploi dans la plupart de ces structures qui sont mises en place par les privés. Donc ça contribue tant soit peu à réduire le chômage, ça contribue tant soit peu à augmenter le niveau des revenus par habitant et ça contribue aussi tant soit peu à relever, en fait, le nombre de personnes qui peuvent payer les impôts et à l'État aussi de pouvoir gagner des recettes. C'est tout un schéma, c'est tout un processus. Mais du même coup, ces logements ou ces hôtels ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors, l'État, dans un pays, il y a des investissements que les privés peuvent réaliser avec le seul objectif de rentabilité. Un privé ne vient pas vous faire les cadeaux, ne vient pas faire de l'assistance sociale. Mais si vous cherchez des logements sociaux, à ce moment-là, l'État peut s'investir de ce côté-là. Alors, la conjugaison de ce que les privés font et ce que l'État fait en utilisant notamment ses ressources budgétaires, c'est quand vous alliez les deux voies à la fois que vous voyez qu'il y a un certain équilibre qui est en train de se créer. On peut trouver des logements sociaux à bas prix et ceux qui ont des moyens vont se loger dans des appartements qui coûtent un peu plus cher parce qu'ils ont des moyens et ces appartements, ils sont entretenus par une main d'œuvre qui peut permettre et qui a aussi l'opportunité d'avoir de l'emploi. Alors, on ne peut pas dire ce que font les privés, non, ils doivent commencer par des logements sociaux. Un privé ne vient pas faire de la gratuité, ne vient pas faire du service social. Un privé vient chercher les profits de son argent. C'est un investissement qui doit lui rapporter de l'argent et il ne peut pas le mettre là où il sait que je ne peux pas avoir de l'argent. Je ne peux pas prendre un hôtel comme Hilton, par exemple, aller le construire, je ne sais pas, dans un quartier reculé de Kinshasa. Non, qui va y habiter? Les gens vont préférer être à la Gombe parce qu'il y a la sécurité,
il y a de l'électricité, il y a de l'énergie, il y a toutes les facilités qui permettent que quelqu'un vive dans un certain confort. Et le prix sera celui-là. Donc, même au ciel, Dieu a dit, il y a, d'un côté, il y a toujours des riches, d'autre côté, il y a des pauvres. Mais ce qu'on sait qu'il faut éviter, ce sont les extrêmes. Et la personne qui doit, ou l'institution qui doit reculer ses extrêmes dans la richesse de la pauvreté, c'est notamment l'État et les gouvernements qui doivent regarder. De ce côté ici, il y a ce développement, mais de l'autre côté, comment on peut songer à ceux qui sont les moins nantis pour qu'ils aient aussi accès quand même à un niveau de service de base. Donc les deux voies sont encouragées, les privés on les encourage et que l'État aussi fasse sa part.
Merci Lems Kamonya. Un autre auditeur qui nous appelle de Kinshasa, et c'est pour vous, tendez bien l'oreille, Israël Moutala, analyste économique.
J'appelle Eunga depuis la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, ce n'est pas la RDC. C'est bien de construire des infrastructures, mais le gouvernement congolais devrait aussi construire sur l'étendue de la République. Cela pouvait contribuer au développement de la RDC dans son ensemble. À mon avis, je ne vois pas dans ces projets le caractère gagnant-gagnant dans la mesure où, avec 49 ans d'exploitation par cette société, la RDC va prendre ses infrastructures dans un mauvais état. Et cela ne serait pas bénéfique pour les Congolais.
Israël Moutal, analyste politique, nous savons que vous avez suivi ce dossier de Milvest. Alors, beaucoup de Congolais réagissent plus ou moins dans le sens de Japhet, et le débat est ouvert. Est-ce que la RDC gagne quand même quelque chose dans ce qui est présenté comme gagnant-gagnant? Et surtout, quand on parle de 49 ans d'exploitation de Milvest, ça fait grincer.
Oui, je répète encore que nous sommes dans une économie mondialisée et pour se développer, la chose la plus importante, c'est les capitaux. Il faut les avoir en grand nombre et à des coûts, ça veut dire à des loyers les plus bas possibles. Donc, nos besoins en développement se chiffrent en milliards en centaines de milliards de dollars. Et donc, avec nos impôts, on ne peut pas financer nos développements. Donc, on doit financer nos développements par des investissements, par de la dette. Et c'est cette dette-là qu'on peut rembourser au fur et à mesure.
Israël Moutala, Milvest dit qu'il il se donne 49 ans pour pouvoir récupérer son investissement et parle de la récupération à travers la gestion d'un hôtel de 5 étoiles qui sera dans ce complexe. Est-ce que c'est vrai? C'est ça les termes de ce contrat, et que devient le reste justement de son complexe? Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer cette problématique de 49 ans d'exploitation par Milvest avant de remettre à l'État congolais? On dit que ce complexe appartient à l'État congolais, mais sera géré une partie par Milvest pour récupérer son investissement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu toute cette problématique qui est jusqu'ici pas encore très bien comprise?
Ben, d'abord, ça veut dire que non, il ne s'agit pas de tous les complexes qui sera remis après 49 ans. Les 49 ans ne concernent que l'hôtel Marriott, où il y a un investissement de Milinvest de 60 millions de dollars.
L'hôtel qui va figurer dans ce complexe
L'hôtel Marriott de 240 chambres qui va figurer dans ce complexe. Donc c'est cet hôtel qui va bénéficier d'un investissement propre de 60 millions de dollars du groupe Milinvest. Parce que sur les 290 millions de financement, c'est un prêt que l'État rembourse chaque mois. Et donc dans le centre financier, il y aura une banque de développement, il y aura l'ensemble des services de la DGRAD, il y aura le BCECO, il y aura un data center, il y aura le service du ministère de Finances et du Budget, il y aura une partie de la DG et de la DGRAD. Bref, il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de sociétés, mais ça appartiendra directement à l'État congolais. Les 49 ans ne concernent que l'hôtel Marriott, parce que c'est dans cet hôtel Marriott où Milinvest a investi 60 millions en termes de fonds propres.
Et, Donc c'est un amalgame qu'il y a dans
l'opinion.
Est-ce que même avec cette option d'exploitation, de gestion par les Turcs ou de par 1000 vestes de l'hôtel Marriott, l'hôtel 5 étoiles qui sera dans ce complexe, est-ce que la RDC perd quelque chose quand c'est fait comme ça, quand c'est géré et par le financier et le financier récupère son argent petit à petit? Est-ce qu'il faut 49 ans pour pouvoir rentrer dans ses droits et que la RDC ne perde pas?
Oui, mais ça veut dire que quand on dit 49 ans, c'est par rapport aux calculs qui ont été faits. Ça veut dire que les 60 millions d'investissements propres, il y a les intérêts, il y a le coût du risque. Ça veut dire que je n'ai pas le taux d'intérêt de ces 60 millions, mais il faudrait savoir, il faut avoir toute l'étude sur la rentabilité. On a dit que c'était un hôtel de 240 chambres. Il faut couvrir les charges. Il faut trouver un taux de remplissage acceptable. Est-ce que le taux de remplissage de cet hôtel, on va l'obtenir au bout de 5 ans, au bout de 10 ans? Donc je pense que c'est voilà pourquoi qu'on a mis cette clé de 49 ans. Mais je pense que si Bilivest rentre dans ses frais avant 49 ans, je pense qu'il pourrait restituer avant. Mais c'est tout ça, c'est pour couvrir tous les risques inhérents à l'investissement qui a cette durée de 49 ans, uniquement pour l'hôtel Marriott.
Merci, Israël Moutalagi. Roger Tchassouma, avocat au barreau du Lualaba Master 2 en criminologie économique et environnementale, mais également licencié en sciences économiques et financières. Nous allons aussi écouter pour vous cette réflexion de notre dernier auditeur.
Pour cet Akim à Mambasa, province de l'Ituri, ces booms des immobiliers observés actuellement à Kinshasa est le reflet d'une stabilité observée des institutions congolaises avec qui les potentiels investisseurs ou un correspondant pour faire ce partenariat gagnant-gagnant. Certes, tous ces partenariats sont louables pour le développement de la République démocratique du Congo, mais tout en restant prudent d'abord comme voir les investisseurs nationaux par rapport aux grands groupes qui viennent des pays étrangers qui risquent de faire une concurrence déloyale. Enfin, le gouvernement congolais doit améliorer le climat des affaires sur l'ensemble du territoire national, notamment en construisant les infrastructures routières, aéroportières et fluviales, et surtout la sécurité nationale doit être garantie pour gagner la confiance des potentiels partenaires qui peut venir pour consolider cet élan de boom immobilier que le pays est en train de connaître.
Guy Roger Tchassouma, avocat au barreau du Lualaba, master 2 en criminologie économique et environnementale et licencié en sciences économiques et financières. Dans le casting de ce soir, vous êtes un peu celui qui est familier avec le détournement, la criminalité, si on peut dire comme ça, économique, en fait toute tentative de malice en affaires. Que pouvez-vous répondre à ces Congolais qui craignent que à travers certains contrats, certains accords, à travers du business, notamment par les privés, la République se fasse dribbler?
Oui, merci beaucoup Monsieur Matt. Bon, je comprends les soucis de notre auditeur. Mais vous avez compris quand j'ai pris l'intervention pour la première fois, je parlais de la sous-traitance dans le secteur privé, où l'État a demandé à ce que la sous-traitance doit se faire uniquement pour les Congolais. Uniquement pour les Congolais dans le secteur privé. Et quand on parle de la sous-traitance, il n'y a que les Congolais, ça répond à sa question, ou à je sais pas, la question, ou l'inquiétude de promouvoir les nationaux. On est en train de promouvoir les nationaux. Vous avez vu aussi qu'avec l'IGEP actuellement, par exemple, on a mis un système tel que même si vous avez eu l'exonération, quand vous avez l'exonération, et que si l'exonération, vous, qui avez bénéficié de l'exonération, vous n'avez pas accompli votre part, ça veut dire quoi, par exemple? Vous avez demandé à l'État congolais de vous donner l'exonération sur la douane, etc., mais en contrepartie, vous n'avez pas rempli votre part qui dit, par exemple, que vous serez exonéré pour telle ou telle chose,
Mais en contrepartie, vous devez créer de l'emploi pour les nationaux. Et si, par exemple, l'IGF voit que vous n'avez pas accompli votre part, ça veut dire que vous n'avez pas créé de l'emploi pour les Congolais en contrepartie de l'exonération que vous avez eue, mais vous avez déjà consommé 70% avec le système qu'on a mis en place avec l'IGF. On peut suspendre même l'exonération. Tout ça, c'est pour favoriser le climat d'affaires, pour favoriser à ce que les choses puissent être bien organisées. Parce que quand vous commencez déjà à organiser ce genre de choses avec l'IGF, etc., et qu'on sait où est-ce qu'on canalise les fonds, l'argent, le fisc, c'est aussi un début de développement. Le plus dur dans notre vie, c'est de commencer. Même quand vous lisez dans la Bible, je ne suis pas un pasteur, mais je vais un peu ce qu'on dit en Genèse, on dit au commencement. Quand Dieu a commencé à créer les choses, il les a passées au même moment. Il y a eu, un, les terres et la terre, et puis il y a eu, et enfin l'homme a été créé. Nous sommes en train d'aller étape par étape, mais déjà l'étape où nous avons déjà entamé actuellement, c'est déjà bon. Nous avons un pas vers le développement, et je crois que le climat d'affaires, maintenant même là en RDC, si vous parlez, c'est quand on est plus dans notre pays que nous trouvons que rien ne marche. Mais quand nous sommes en dehors de notre pays, vous trouvez que les investisseurs qui sont en dehors de notre pays envient toujours de venir au Congo. Des fois, il y a des gens qui prient tous les jours pour qu'ils disent que si je vais en Chine, je te serai au paradis. Mais il y a aussi un Chinois qui se dit, Dieu, si vous m'amenez en RDC, moi-même le paradis, là, je ne peux même pas sauter, je suis déjà au ciel.
Voilà, dialogue entre Congolais est progressivement en train de tomber ses rideaux ce soir. Nous sommes au moment des conclusions. Lems Kamwanya, analyste économique, est-ce que ce mouvement de boom des bâtiments de luxe observés ça et là en République démocratique du Congo va se poursuivre et est-ce que vous pensez que ça pourra avoir de l'effet sur le boom social et peut-être parvenir finalement assez rapidement à un développement possible attendu chèrement par les Congolais?
Oui, c'est-à-dire il y a les conditions pour que ce boom immobilier ou en infrastructure pour qu'il se poursuive dans les autres villes du pays, je crois qu'Efraïm Moutala l'a évoqué, il y a des préalables. Il faut qu'il y ait de l'activité économique. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Il faut qu'il y ait une population qui a quand même un minimum de moyens pour accéder à toutes ces infrastructures qui sont construites. Parce que si vous construisez des hôtels et qu'il n'y a pas d'activité économique, qu'il n'y a pas de voyages, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'avions qui vont là-bas, il faut vous poser la question qui va y habiter. Donc là, j'aimerais ici évoquer la responsabilité de l'État dans l'amélioration des infrastructures qui véhiculent le développement, notamment les routes, les aéroports, l'accès à l'énergie, et aussi développer l'activité économique. Si vous prenez les grandes villes du pays en dehors de Kinshasa, même Kinshasa, ce qui a fait développer ces villes, vous allez constater que derrière là, il y a toujours l'activité économique qui était à la base. Vous allez au Grand Katanga, toutes les villes qu'on connaissait là-bas, elles sont développées derrière le secteur minier par la Gécamine, par les lignes minières en son temps. Vous allez en Mbujimayi, la Miba, vous allez trouver qu'il y avait les diamants. Donc partout, sans activité économique importante, ça ne peut pas aller. Je peux même vous donner des villes qui ont été construites par des politiciens qui étaient haut placés, soit après leur mort ou après que ces politiciens ne soient plus aux affaires, vous allez constater que ces belles villes sont tombées dans la ruine ou bien ont été abandonnées. Donc l'activité économique demeure quand même des leitmotivs qui appellent, qui attire les investisseurs, veut dire, venez investir et vous allez trouver les réponses. Sans cela, ça va être difficile. Et d'autre part, il faut que l'État aussi puisse faire sa part dans la construction des autres infrastructures de la carte sociale qui véhiculent le développement. Et effectivement, je le confirme, plus qu'il y a ces investissements, on aura besoin de la main-d'œuvre pour y travailler, et cela peut aussi amener à ce que la plupart des gens puissent y trouver de l'emploi et qu'on réduise les chômages.
Merci, Lems Kamwanya. Israël Moutala, analyste économique, votre pronostic concernant l'avenir de tel boom de luxe et peut-être l'avenir d'un boom, cette fois-là, social?
Je rappelle déjà qu'à ce stade, le projet du centre financier de Kinshasa, c'est 1800 Congolais qui ont trouvé de l'emploi. Il y a aussi 1200 Turcs, ça fait 3000 emplois déjà créés. Et donc, à terme après, il y aura 5000 emplois créés. Donc, c'est déjà énorme qu'on va trouver de l'emploi formel. Mais je préfère que aussi que l'État tienne compte du transfert des technologies Je vois que c'est, je suis passé par là, la construction est très propre, elle est très sobre, elle n'est pas bruyante comme ailleurs, elle n'est pas très salissante, voilà. Je pense, et ça va très vite. Je pense qu'ils ont mis un nouveau standard en termes de construction de
bâtiments,
de gratte-ciel. Il faut absolument qu'on s'en serve. Mais bon, j'aimerais dire aussi que l'État doit anticiper pour que les matériaux de construction soient produits localement et on rendra encore notre économie plus compétitive. Du côté ciment, on produit déjà localement du bon ciment, mais je pense qu'aussi, il faut que nous ayons une industrie de la verrerie, il faut que nous ayons une industrie de barres de fer qu'on développe pour que, quand des tels capitaux viennent pour construire, que la majeure partie des matériaux de construction
soient absorbés
localement à un coût acceptable. Et cela va dans le sens de la zone économique de Maluku, qu'on commence déjà à produire de carreaux et de la faïence. On est dans la bonne dynamique. Il faut qu'on l'amplifie, il faut qu'on la consolide, il faut que ce soit vraiment un mouvement de fond qui embrasse toutes les provinces, mais il faut des préalables.
Merci Israël Moutala. Et pour terminer, Guy Roger Tchassouma, avocat au barreau du Lualaba, master 2 en criminologie économique et environnementale et licencié en sciences économiques et financières. Votre dernier mot de nos débats de ce soir.
Oui, je suis sûr et certain et aussi convaincu que ce boom continuera. Mais si ça doit continuer, il faut que l'État puisse mettre une politique économique de suivi et évaluation. Parce qu'à tout moment, on doit savoir comment nous évoluons, nous sommes où et où en sommes-nous. Et aussi la politique de l'urbanisation. Parce que, comme mon prédécesseur l'a dit, qu'on ne puisse pas construire en désordre parce qu'on a l'argent et qu'on peut choisir partout où on veut. Mais si l'État met aussi une bonne politique de l'urbanisation, qui doit suivre à tout moment les niveaux d'exécution des travaux et aussi motiver les bureaux comme le bureau technique de contrôle, entre autres le BTP et les autres, pour faire le suivi et évaluation comme l'IGFP, je suis sûr et certain que nous serons au top et que ce boom continuera et qu'il y aura de l'emploi et qu'il y aura assez de fixes qui vont entrer de l'État et que même le budget va augmenter, le budget de l'État va augmenter de jour en jour. Non, pas de jour en jour, mais chaque année, nous aurons quand même un niveau élevé et les investisseurs qui vivent encore en dehors vont nous envier. Et par la même occasion, j'invite encore ceux qui ont peur de venir investir au Congo de venir encore investir plus parce qu'actuellement, le climat d'affaires est au bon fixe.
Merci Guy Roger Tchassouma, tout comme à Israël Moutala, mais aussi à Lems Kamoanya pour votre présence dans cette émission de ce soir. Dieu donné Nyangassa, Wanyangassa, Guy Mate, Kéline Kouté, Jonathan Fouanani et Clément Chimanga m'ont aidé à produire cette émission. Dona Madimba, c'est moi. Et à la présentation, dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.